Pourquoi Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Henri Francisque.
Au sommet en ce mardi 27 janvier 2015, Nigeria, offensive des forces armées contre les islamistes qui contrôlent le nord-est du pays.
Les bandes armées multiplient les kidnappings en Centrafrique où l'on n'a toujours pas de nouvelles du ministre Ningatoloum Sayo.
Les travailleurs gabonais revendiquent une hausse du salaire minimum de 400%.
Zéro cas d'Ebola au Libéria d'ici à quelques semaines, selon Moronvia.
Guerre en Syrie, les combattants kurdes en passe de reprendre complètement Kobané aux djihadistes.
Et le tout nouveau Premier ministre grec de gauche radicale essuie un premier refus des dirigeants européens sur les mesures d'austérité. Mais avant tout, le journal.
Le nord-est du Nigeria a été hier encore le théâtre de violences. L'armée qui a repoussé une attaque de Boko Haram à Maïdougouri dimanche a annoncé une offensive pour reprendre Monguno aux mains des islamistes. Michel Joseph.
Le général Chris Olukolade, porte-parole de l'armée nigériane, a déclaré hier sur la VOA qu'une opération aérienne et terrestre est en cours pour reprendre Monguno et sa base militaire au nord-est de Maïdougouri. Depuis dimanche, cette localité est contrôlée par les islamistes. L'armée nigériane a signalé des combats hier à Konduga, non loin de Maïdougouri, qui avait subi dimanche une attaque des insurgés qui ont battu en retraite après la riposte des soldats. Bello Doukou, un reporter local cité par l'agence Reuters, dit avoir compté à la morgue de Maïdougouri plus de 100 morts, dont au moins 15 soldats. Le couvre-feu a été levé hier, mais il y a encore des barrages routiers en ville. John Kerry, le secrétaire d'État américain, s'est arrêté à Lagos dimanche pour réaffirmer le soutien de Washington à la lutte contre le terrorisme, après avoir rencontré le président sortant, Goodluck Jonathan, et son rival, Muhammadu Buhari. Il a appelé les autorités à tenir les élections le 14 février prochain.
Le Sénégal a rouvert ses frontières terrestres avec la Guinée. Elles étaient fermées depuis plus de 5 mois à cause de l'épidémie d'Ebola. Lionel Gaïma.
Dans un communiqué hier, le ministère sénégalais de l'Intérieur a annoncé que les personnes et les biens peuvent librement circuler par voie terrestre entre les deux pays. Toutefois, un dispositif sera mis en place au niveau des points de passage pour combattre le risque de propagation de la maladie. À Conakry, c'est un ouf de soulagement, car la Guinée exporte une bonne partie de ses produits agricoles vers le Sénégal. Et beaucoup de commerçants guinéens s'approvisionnent à Dakar. En novembre dernier, le Sénégal avait déjà rouvert ses espaces aériens et maritimes aux avions et bateaux en provenance de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. Selon l'OMS, dans ces trois pays, le nombre de nouveaux cas de fièvre hémorragique Ebola est retombé à son niveau le plus bas depuis août. L'épidémie aura fait plus de 8 600 morts.
Toujours pas de nouvelles du ministre centrafricain de la jeunesse et des sports, Armel Ningatoloum Sayo, enlevé dimanche à Bangui par des hommes armés. Dans une déclaration hier, l'ex-mouvement anti-Balaka, qui est devenu un parti politique, a décliné toute responsabilité et appelé les autorités de la transition à plus de vigilance. Le point avec Félix Yepassi Zembro.
Dans sa déclaration, l'ex-anti-Balaka, transformé en Parti centrafricain pour l'unité et le développement, PCUD, dit n'avoir rien à voir avec l'enlèvement du ministre. Il affirme ignorer l'identité des ravisseurs qui, selon le parti, ont opéré sur ordre de certains hommes politiques centrafricains ayant pris part au pourparlers de Nairobi. Igor Béranger Lamaka, porte-parole du PCUD.
Le PCUD condamne et décline toute responsabilité en ce qui concerne le kidnapping du ministre Armel Sayo. Le Parti centrafricain pour l'unité et le développement ne connaît pas les ravisseurs. D'après les informations en notre possession, c'est orchestré depuis Nairobi avec la complicité de ces éléments du RJ et un petit groupe des ex-anti-Balaka manipulés. Le PCUD, ex-anti-Balaka, se désengage totalement de ce petit groupe manipulé depuis Nairobi.
Appelant les autorités de la transition à la vigilance, le PCUD propose une concertation d'urgence entre la présidence de la République, le gouvernement et le G7 Siriri, plateforme des groupes armés. Entre-temps, les 8 personnes retenues dimanche en otage par des ex-sénégas de Kakabandoro ont été libérées hier. Elles avaient été enlevées à 10 km de la ville alors qu'elles partaient pour les consultations populaires à la base dans la Nana Gribizi.
Les Gabonais revendiquent une hausse du salaire minimum de 400%. De nombreux syndicats de fonctionnaires ont déposé hier un préavis de grève pour le 2 février. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
C'est le tout dernier signe de la grogne sociale dans le pays. Jean-Rémy Yama, secrétaire général du SNEC, syndicat des enseignants-chercheurs, demande un relèvement du point d'indice, un nouveau mode de calcul de la pension retraite et l'augmentation du SMIC de 80 000 francs CFA à 300 000 francs CFA. La baisse du prix du pétrole, première ressource du pays, n'arrange pas les choses. Le gouvernement cherche des solutions à la baisse de ses recettes. Il a été proposé de réduire le salaire des ministres et le train de vie de l'État et plusieurs grands projets sont à l'arrêt faute de financement. Samedi dernier, les syndicats avaient improvisé une assemblée générale à Libreville, mais l'accès à l'école où devait se tenir leur réunion a été bloqué par les forces de l'ordre.
Dominique Ongouin, un ex-commandant de l'armée de la résistance du Seigneur, a fait sa première comparution devant la Cour pénale internationale hier. Il fait face à plusieurs chefs d'accusation de crimes de guerre et contre l'humanité dans le cadre des attaques de la LRA en Ouganda en 2004. L'audience de confirmation des charges a été fixée au 24 août.
Un tribunal égyptien a condamné un médecin d'homicide involontaire pour la mort d'une jeune fille de 13 ans en 2013 dans une procédure bâclée de mutilations génitales féminines. Les mutilations génitales féminines continuent à être exercées en Égypte malgré une interdiction qui date de 2008.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Guerre en Syrie, les combattants kurdes ont pratiquement chassé le groupe djihadiste État islamique de Kobané. Ils occupent maintenant 90% de cette ville frontalière de la Turquie, a déclaré en substance le CENTCOM, le commandement américain qui dirige la coalition internationale anti-État islamique. Des précisions avec Claire Morin-Gibourg.
Les régions kurdes de la Syrie étaient en liesse hier après l'annonce de l'éviction de l'État islamique de la ville de Kobané. Une défaite militaire cuisante pour le groupe djihadiste qui intervient le jour même où un responsable militaire en Irak annonçait que la province de Diyala, dans l'est du pays, était également libérée du groupe extrémiste. Kobané, petite ville frontalière de la Turquie, était devenue le symbole de la résistance à l'État islamique depuis que les djihadistes y avaient lancé un vaste assaut le 16 septembre dernier. Le revers à Kobané porte un coup d'arrêt à l'expansion territoriale que l'État islamique mène en Syrie depuis son apparition dans le conflit en 2013. Les forces kurdes, au départ sous-équipées, ont réussi à prendre l'avantage grâce à l'appui crucial de la coalition internationale dirigée par les États-Unis, qui a fait de Kobané une priorité depuis le début des frappes aériennes en Syrie le 23 septembre. 17 frappes y ont encore été menées entre dimanche soir et lundi matin sur des positions des djihadistes, selon le commandement de la coalition.
En Grèce, le nouveau Premier ministre Alexis Tsipras devrait annoncer aujourd'hui la composition de son gouvernement de coalition avec le parti des Grecs indépendants ANEL, selon l'AFP. Le chef du parti de gauche radical Syriza a accédé à la primature hier alors que les dirigeants européens rejetaient sa demande de renégociation des mesures d'austérité imposées au gouvernement grec. Les radicaux de gauche ont gagné haut la main les élections de dimanche en promettant aux électeurs de mettre fin aux privations économiques qui ont conduit à des réductions de pensions et de salaires et à un fort taux de chômage. Mais un porte-parole de la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré haut et fort que la Grèce doit respecter ses engagements. Pour sa part, Washington se dit prêt à soutenir les réformes en vue de la relance de l'économie grecque.
Au Yémen, 3 militants présumés d'Al-Qaïda ont été tués hier dans une attaque de drones américains. Au lendemain des déclarations du président Barack Obama annonçant la poursuite des opérations américaines contre des cibles terroristes dans le pays, en dépit de l'instabilité politique à Sanaa, la capitale. L'incertitude au Yémen après la démission du président Abd Rabbou Mansour Hadi et de son gouvernement a conduit Washington à suspendre les services consulaires de l'ambassade américaine.
Voilà pour les nouvelles. Maintenant, le journal de la CAN avec Nicolas Pino.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique. Inédit, un quart de finale entre Diable Rouge et Léopard se profile à l'horizon. La nuit a été longue hier à Bata pour les Congolais. Au bout du suspense, la RDC arrache sa qualification pour les quarts de finale. Une première depuis la CAN 2006 en Égypte. que ce fut dur pour les Léopards, dominés 1-0 pendant une heure de jeu avant la libération grâce au but de Bokila. Le compte-rendu sur place de Thierry Kamboundi.
Qualifiés in extremis dans un groupe serré jusqu'au bout, les Congolais doivent leur place en quart de finale, en plus du 1 but partout face aux Tunisiens, au nul vierge entre Capverdiens et Zambiens. Jérémy Bokila, unique buteur congolais de la partie et homme du match, espère que cette qualification ramènera la paix et la joie aux Congolais après les événements malheureux de ces derniers jours.
Ça fait du bien d'être qualifié parce qu'on savait bien que le match allait être dur. Mais gloire à Dieu, on a passé parce que j'étais vraiment bien concentré dans le match. Je me sentais bien. Gloire à Dieu, j'ai marqué. Comme ça, ça donne un peu à la pays aussi, un peu le paix.
Le prochain rendez-vous, c'est avec le voisin du Congo-Brazzaville. Un derby chargé d'histoire entre les deux Congos que les Léopards veulent absolument remporter pour affirmer la domination du Grand Congo, a dit le capitaine Youssouf Moulumbu.
Aujourd'hui, on a vraiment joué avec le cœur et on va se battre jusqu'au bout parce que là, c'est un grand derby face au Congo et il faut qu'on montre que nous sommes le Grand Congo. On peut pas perdre contre le petit frère, c'est pas possible.
Depuis Bata, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Malgré trois matchs nuls donc, la RDC se qualifie. Les Congolais passent grâce à une meilleure attaque. Le Cap-Vert et la Zambie n'ayant pu faire que match nul 0-0 sur la pelouse détrempée des Bébéyines. C'est évidemment la joie du côté de Florent Ibengue, le sélectionneur congolais.
Je suis très content, bien sûr, parce qu'on est arrivé petitement dans cette compétition. Et on était dans un groupe difficile, on était les derniers classés de notre groupe au niveau classement FIFA. Mais je l'avais bien dit qu'on venait pour tout faire pour passer au deuxième tour. Je crois que vous avez vu encore aujourd'hui, face à la Tunisie qui est la deuxième nation africaine, on a fourni une belle prestation. On se retrouve en quart de finale. On sait que c'est un groupe qui est très compact avec une paire d'attaquants très complémentaires, un qui est très grand, qui tient les ballons et un qui va très vite. Et au milieu de terrain, ils sont à quatre, très travailleurs. Donc une équipe très difficile à manœuvrer.
Florent Ibengue, le sélectionneur de la RDC. À suivre donc les deux premiers quarts de finale. Inédit, le duel congolais entre les Diables Rouges et les Léopards. La Tunisie, elle, affrontera le pays organisateur, la Guinée équatoriale. On écoute Georges Likens, le sélectionneur de la Tunisie, qui revient sur le match contre la RDC.
Très bien commencé, on a peut-être oublié de finir le match. Déjà, deuxième mi-temps, quelques occasions que je crois qu'on peut faire mieux, mais on est très content, on est qualifié. Je suis très fier d'être qualifié premier du groupe. Je crois que toute la Tunisie est derrière nous. J'ai déjà entendu que c'est la grande fête ce soir, ça va encore. Mais dès que demain, on va tout concentrer sur le Guinée qui a fait hier un match extraordinaire. Mais nous autres aussi, félicitations pour mes joueurs.
Georges Likens, le sélectionneur de la Tunisie.
Non, ne me teste pas, non, j'ai la balle, ne me teste pas. Écoute la foule crier qu'on va gagner.
Rendez-vous ce mardi pour les dernières rencontres du groupe C. Algérie-Sénégal et Ghana-Afrique du Sud. Les Lions de la Teranga sont pour le moment premiers avec 4 points, mais vont-ils réussir à passer l'obstacle algérien? La réponse de Jules Valentin Gouet dans ce coup de sifflet.
Bonjour. 3 ans après le flop monumental de 2012 sur les mêmes terres, les Lions de la Teranga reprennent des couleurs. Si en 2012, avec un casting digne d'une méga production hollywoodienne, le Sénégal avait présenté une comédie de boulevard, cette fois-ci, les données ont changé, sans tambour ni trompette. Une petite révolution silencieuse s'est opérée discrètement, avec à la baguette le nouvel entraîneur Alain Giresse, qui avait déjà fait un excellent travail au Gabon puis au Mali. Giresse a trouvé au Sénégal une constellation d'individualités, en particulier des attaquants axiaux et des buteurs en série, qu'il fallait bien faire jouer ensemble avec le maximum d'efficacité. Il a fallu surmonter les égos et opérer des choix, mais aussi inventer un jeu collectif et insuffler une philosophie de jeu à un groupe qui avait du mal à jouer la même partition. Le sélectionneur français a alors eu l'idée d'utiliser comme ciment collectif l'équipe espoir de 2012, impressionnante par sa facilité pendant les derniers Jeux olympiques. Finalement, la mayonnaise a pris. Si on ajoute à cela l'indécrottable habitude des Sénégalais à faire déjouer les équipes d'Afrique du Nord, il n'est pas exclu de voir la troisième journée dans la poule C apporter la première grosse sensation du tournoi, l'élimination du favori numéro 1, l'Algérie. À demain.
C'est tout pour ce journal de la CAN. Prochain point sur la compétition ce soir dans Le Monde Aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur notre site internet voafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Quasiment plus de cas d'Ebola au Libéria, c'est une déclaration du ministre du Commerce et de l'Industrie, Axel Hadi, estimant qu'il n'est pas impossible de réduire à zéro le nombre de cas en l'espace de quelques semaines. Un reportage de Lisa Schlein présenté par Chérubin Dorsil.
Les cas d'Ebola au Libéria sont passés de plus de 300 par semaine en août 2014 à moins de 10 par semaine en janvier 2015. Selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, 13 des 15 comtés du pays n'ont rapporté aucun cas d'Ebola depuis 3 semaines, la période d'incubation de la maladie. Axel Hadi signale que seulement environ 31 patients sont actuellement traités à l'échelle nationale dans les UTU ou unités de traitement d'urgence. Selon lui, la baisse spectaculaire du nombre de personnes tombant malades du virus donne lieu d'espérer que cette menace touche à sa fin.
We think we can make it to zero.
Nous pensons que nous pouvons le réduire à zéro d'ici la fin de février au plus tard. Nous sommes très proches de cet objectif. Les villes frontalières sont surveillées de très près avec la Sierra Leone et la Guinée et nous collaborons avec des équipes de ces pays pour empêcher la propagation des cas au-delà des frontières. Monsieur Hadi attribue ce revirement spectaculaire à une meilleure logistique et une plus grande participation de la communauté. Il dit que chaque comté a maintenant des unités de traitement d'urgence, des moyens d'identifier les personnes contactées par un patient et de meilleures procédures pour l'inhumation des cadavres. A signaler aussi, ajoute-t-il, la présence de 3000 militaires américains aidant le Libéria à coordonner les efforts de secours internationaux. Dans un entretien avec la Voix de l'Amérique, l'officiel libérien relève qu'une plus grande participation de la communauté dans les actions nécessaires pour enrayer l'épidémie a joué un rôle primordial. Il croit qu'avec une meilleure prise de conscience et l'implication des dirigeants communautaires dans la réponse à ce problème, on a commencé à voir d'énormes changements en termes de nouveaux cas. Je pense, dit Axel Hadi, que l'une des principales raisons de cette baisse énorme, c'est parce que la communauté s'est approprié la réponse à l'épidémie. Cependant, fait remarquer le ministre du Commerce et de l'Industrie du Libéria, Ebola nuit encore à l'économie, en dépit du succès apparent dans la lutte contre l'épidémie. Pour preuve, la croissance du PIB est passée de près de 6% à moins de 1%. Les deux principales industries du pays, le fer et le caoutchouc, ont subi un grand coup et il faudra des années pour qu'elles récupèrent. En tout, dit le ministre, le Libéria a perdu plus de 93 millions de dollars de revenus en raison du virus Ebola. Mais avec le déclin de l'épidémie, les autorités et le secteur privé des affaires s'attellent déjà à courtiser les investisseurs.
Au Tchad, le mouvement populaire du Salut MPS, le parti au pouvoir, s'est attribué un nouveau secrétaire général hier à la faveur de son congrès extraordinaire de N'Djamena. Il s'agit de l'ancien Premier ministre Emmanuel Nadingar qui succède à Adrien Malobeyem. Un changement intervenu en prévision des prochaines échéances électorales. Pour une analyse, Timothée Donangmaï, adjoint à Montréal au Canada, Maxwell Loalngar Naringue, ancien rédacteur en chef de l'hebdomadaire tchadien Le Temps.
Je ne sais pas s'il faut parler en tant que tel de changement, parce qu'on reprend du vieux pour faire du neuf avec, et puis voilà, Emmanuel Nadingar, c'était l'ancien premier ministre d'Idriss Déby. Membre du MPS, il hérite nouvellement du poste de secrétaire général du parti. Mais fondamentalement, on se demande si c'est de nature à changer quelque chose dans la conduite de ce parti-là, qui est par ailleurs aussi le soutien du pouvoir et du gouvernement à l'Assemblée nationale. De ce point de vue, qu'il y ait changement dans la conduite des affaires du parti et du pays, ce serait une surprise.
Quel est le problème de fond auquel fait face le MPS?
Je crois qu'il ne fait pas l'ombre d'un doute que le MPS, à l'heure d'aujourd'hui, est traversé par des divergences qui tiennent beaucoup plus aux personnes qu'à l'idéologie du parti. Tant il est bien que le parti n'a jamais démontré qu'il a une idéologie qui va dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation et surtout du bien des Tchadiens dans leur ensemble. Ce changement de tête qui est intervenu aujourd'hui me semble beaucoup plus être la matérialisation des intrigues qui se joue au sein de ce parti-là, qui semble loin des souffrances quotidiennes des Tchadiens.
L'ancien Premier ministre Djemrangar Dadnadji, qui a claqué la porte du MPS, a sévèrement critiqué ce parti. Est-ce que cela va changer quelque chose?
Malheureusement, le MPS n'a jamais fait amende honorable par rapport à ses dérives propres que l'ancien Premier ministre, qui était par ailleurs aussi ancien secrétaire général du MPS, ait critiqué ces dérives-là, ne me semble pas de nature à amener ce parti-là à changer véritablement. C'est bizarre, il y a eu des événements dans la ville pétrolière de Doba, où des élèves ont été réprimés férocement par la police, la gendarmerie, que ce parti qui tient en même temps son congrès extraordinaire ne pipe pas un mot sur ces événements-là. C'est grave, c'est la preuve que ce parti-là est vraiment aux antipodes des réalités que vivent les Tchadiens, la misère noire dans laquelle le peuple tchadien dans son ensemble est plongé.
Maxwell Loalngar Naringue, ancien rédacteur en chef de l'hebdomadaire tchadien Le Temps.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
En RDC, le Parlement a trouvé dimanche un compromis en votant une loi électorale qui ne conditionne plus la tenue des élections de 2016 au référendum et à l'identification. Le calme est ainsi revenu dans le pays, mais pour combien de temps? Eddy Sango a posé la question à un spécialiste en administration publique, Jean-Aimé Bondeau, joint ici aux États-Unis.
Dire que la tempête est passée, ce sera des illusions, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a le calendrier électoral que tout le monde attend. Et je crois que même les gens qui sont les tenants du pouvoir actuel doivent faire attention. Si le peuple n'a pas réagi aujourd'hui, vous savez que d'abord, il y avait l'appel, la mobilisation de l'Église catholique, qui n'a pas eu lieu, parce que tout le monde était focalisé sur ça alors.
Et comment vous expliquez ces calmes? C'est juste parce que les deux chambres du Parlement ont convenu sur un même texte de projet de loi électorale?
Oui, en fait, parce que le peuple salit était qu'il fallait empêcher à tout prix qu'il n'y ait pas glissement des élections à venir. Que les élections aient dans les temps prévus par la Constitution, donc les élections doivent avoir lieu 90 jours avant l'échéance du mandat actuel du président. Le peuple voudrait qu'il y ait un changement alternatif au pouvoir. On pense que le peuple était focalisé sur ça. Et comme cela est passé, mais donner le temps au peuple d'analyser encore la loi en profondeur et voir s'il n'y aura pas d'autres choses qui peuvent encore bloquer ou amener à ces glissements.
Que va-t-il se passer? Kabila ne s'est pas prononcé officiellement s'il se représentera ou pas.
Mais je crois que c'est tout à fait logique qu'il garde son silence et qu'il ne dit rien sur ça, mais qu'il continue à travailler jusqu'à la fin de son mandat.
Mais que va-t-il se passer? Va-t-il se présenter ou pas? Est-ce que cette loi est suffisante pour l'empêcher de se représenter comme le pensent ses adversaires?
Oui, en tout cas, à mon humble avis, il n'a même pas le droit de se représenter parce que la Constitution ni la loi ne lui donnent même pas cette autorisation-là, ni le pouvoir de se représenter. Les gens qui sont au pouvoir, ils doivent être attentifs réellement à la volonté de la population. Les élections peuvent avoir lieu s'ils ont la volonté politique de les organiser. Mais s'ils veulent qu'il y ait encore des troubles, les élections n'auront pas lieu. Les problèmes de moyens financiers, on les a demandés par la volonté internationale de donner le calendrier et ils peuvent trouver des moyens. Mais s'ils ne veulent pas, s'ils veulent entretenir le flou, donc il y aura encore des troubles dans les jours à venir.
C'était Jean-Aimé Bondeau, analyste politique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Conséquence de la chute des prix du pétrole, les opérations de forage ont diminué dans certaines parties des États-Unis, notamment au Texas. Cela génère quelques inquiétudes, mais jusqu'à présent, il y a eu très peu d'impact sur la prospérité de la région. Un reportage de Greg Flaccus, interprété par Bagassi Koura.
Partout, des poids lourds dans cette région rurale jadis paisible du sud du Texas, grâce au forage des gisements de schiste de Eagle Ford, des villes comme Kennedy sont en plein essor avec de nouveaux bars, de nouveaux restaurants et des centres commerciaux. À Panna Maria, par exemple, ville établie par des immigrants polonais au milieu du 19e siècle, Mark Mika a construit une nouvelle maison avec l'argent perçu des compagnies pétrolières.
It's been great for me. It's been great for a lot of people.
Ça a été formidable. Pour moi, ça a été formidable pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de millionnaires dans ce comté. Mais la baisse des prix du pétrole a ralenti le développement de nouveaux projets. Hélène Hernandez délivre les permis de projet pour le comté de Carnes.
Ils
font les prédictions du nombre de puits qui vont être creusés cette année. Ils ont réduit ce nombre de moitié. Certaines entreprises ont commencé à licencier des travailleurs, mais ceux qui ont des opérations à moindre coût restent actifs. Ronald Thomas est chauffeur de camion et dit qu'il n'y a aucune baisse des travaux là où il travaille. Je suis reconnaissant d'avoir encore un emploi rémunéré et nous sommes occupés. Je suis assez bien ici. Omar Garcia est président et chef de la direction de l'énergie de la table ronde économique du sud du Texas qui représente les entreprises travaillant dans la région d'exploitation de schiste Eagle Ford. Ces entreprises ne vont pas s'éloigner de cet investissement de milliards de dollars. Elles continueront l'exploration. Il y aura toujours des emplois dans le sud du Texas. À quel niveau? Tout dépend du prix du pétrole cette année. Garcia affirme que le développement de l'énergie dans la région Eagle Fort est si récente que les gens ici n'ont jamais connu une grande baisse des prix. Pour lui, cette région a passé 20 ans sans croissance économique avant le boom du schiste bitumeux qui, rien que l'an dernier, avait un impact économique de 87 milliards de dollars, soutenant 150 000 emplois.
La Minute Éco, c'est un regard sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Jacques Aristide. Bonjour Jacques.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Lancement d'un nouveau fonds pour venir en aide aux petits agriculteurs africains.
Un fonds de 50 millions de dollars, l'équivalent de 25 milliards de francs CFA, il a été dévoilé hier à Abidjan par la fondation Mastercard, qui a confié la gestion à la firme d'audit KPMG. L'argent aidera à accélérer les possibilités d'accès aux services financiers des populations du monde agricole sur le continent africain. 15 millions de dollars serviront à améliorer la condition des petits agriculteurs. Les 35 millions restants seront alloués au développement de concepts novateurs à travers l'Afrique. Les pays éligibles sont le Burundi, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Djibouti, la RDC, l'Éthiopie, la Gambie, le Ghana, ainsi que le Kenya, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Mali, le Mozambique, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, la Sierra Leone, la Tanzanie, le Togo, l'Ouganda et la Zambie.
Et le groupe islamiste Boko Haram a fait perdre au Cameroun 500 millions de dollars de recettes douanières en 2014.
L'administration douanière du Cameroun précise que les recettes collectées dans la région de l'extrême nord du Cameroun ont chuté d'un peu plus d'un milliard de francs CFA à cause de Boko Haram. Pourtant, cette région générait environ 5 milliards de francs CFA par an.
Et pour terminer, Jacques, les dirigeants de grandes entreprises africaines se donnent rendez-vous les 16 et 17 mars à Genève.
C'est effectivement la capitale belge qui abritera le 3e Africa CEO Forum. Les participants feront état de l'effondrement des prix des matières premières, dont la chute du prix du pétrole, et de l'impact économique découlant de l'insécurité frontalière qui touche plusieurs pays africains, de même que l'épidémie d'Ebola.
Merci beaucoup Jacques pour la Minute Éco.
Chers auditeurs de VOA Afrique, restez branchés dans RM Show aujourd'hui entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, de la bonne musique rap et hip-hop. Dans notre segment Antenne Libre, la question de cette semaine, selon vous, c'est quoi la démocratie? Nous parlerons aussi des pour et des contre de la démocratie. Nous aurons plusieurs invités dans notre studio 13 de VOA. Nous lirons vos mails et vos commentaires postés sur notre groupe Facebook. Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Appelez-nous aujourd'hui entre 20h et 21h, temps universel, au 001-202-619-3140. Je répète, c'est le 001-202-619-3140. Peace Africa!
La Coupe d'Afrique des Nations à l'honneur sur VOA Afrique. Retrouvez-nous pour parler des matchs de votre équipe préférée du lundi au vendredi à 19h, temps universel. Composez le 001-202-619-3140 et réagissez en direct. La CAN 2015, évidemment, sur VOA Afrique.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, à la console John Ellison. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Bon mardi à toutes et à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.